Bonjour à tous, bienvenue, merci d'être avec nous pour ce nouveau magazine de la moto, tous les dimanches de 11h à 12h30 sur Campus Lille 106,6 ou www.campuslille.com. Aujourd'hui, nous allons parler avec Bruno Palinski de l'homologation du circuit, l'homologation qui devrait se faire l'année prochaine. Bruno, bonjour.
Bonjour.
Alors, du circuit Lezenne, forcément, du complexe moto de Lezenne. Dans quelques instants, effectivement, oui. Ce circuit va devoir être homologué par Fédération française de moto.
C'est une obligation depuis 2006, tous les circuits doivent être homologués. Donc la préfecture nous demande cette homologation. On a donc eu la FFM qui était donc mandatée par la préfecture, qui nous a fait une visite, qui a vu un peu le circuit, qui a vu le circuit, et qui nous a fait un compte-rendu en octobre. Suite à ce compte-rendu, on a établi différents devis et en fonction de différentes options, parce qu'on nous a proposé différentes possibilités, parce qu'on a des points sensibles, on va dire, sur le circuit, notamment une passerelle qui est à l'arrière du complexe et qui est en pleine trajectoire. Donc on a eu le conseil d'administration début novembre. Et on a choisi donc nos options. Hein. Donc ces options sont la vidéosurveillance, au lieu d'avoir donc des commissaires de piste, ce qui est plus facile à gérer. On va faire donc une chicane avant la deuxième passerelle, la passerelle qui est sur la trajectoire. On a à peu près 1600 mètres de murs de pneus à faire sur le tour du circuit. Des dégagements, l'élagage sur tout le tour du circuit. Ça, c'est bien parce que c'est pareil, il ne fallait pas sortir des bacs à gravier. Hein. Voilà. Donc, alors, le souci, c'est que le montant de ces travaux s'élève à 270 000 euros. Alors, l'association a décidé de dégager sur ses fonds propres 100 000 euros. Donc, il nous reste à trouver 170 000 euros. Alors, pour trouver ces 170 000 euros, on a différentes possibilités, qui vont être subventions, sponsoring et dons. Donc, le temps de récupérer cet argent, donc on se laisse à peu près un an pour attaquer les gros travaux, parce que donc les gros travaux commenceront donc fin de l'année prochaine. La bonne nouvelle, c'est que le circuit sera donc ouvert en 2015, sans augmentation de tarifs. Et il faut savoir que ces adhésions sont pour nous nécessaires pour le fonctionnement de l'association. Donc adhérer en nombre, ça aide à faire vivre l'association et à pouvoir envisager l'avenir de manière plus sereine. Donc on a eu une pétition qui a été faite contre la fermeture du circuit qui a recueilli quasiment 12 000 signatures. Donc on compte sur tous ces signataires pour nous aider sous la forme de dons. Donc si vous voulez faire un don, il y a le site du complexe qui est complexemoto.free.fr ou en vous rendant donc sur le site du complexe tous les jours de 9h à 17h. Alors il y a certains travaux qui vont commencer dès la semaine prochaine, qu'on engage donc sur nos fonds propres, tels que l'élagage de tout le tour du circuit. Voilà.
Très bien. On reviendra après le sommaire, on reviendra sur le pourquoi l'homologation du circuit.
D'accord.
Parce que c'est une chose qui devait être faite depuis
2006.
Depuis longtemps.
Oui. Mais on avait un statut qui était, on va dire, qui n'était pas très très.
Et donc la menace de la fermeture du circuit a fait que justement on a précipité les choses
Parce qu'avant on était considéré comme une piste routière. Il y avait donc un statut piste routière qui nous couvrait, on va dire. Maintenant, depuis 2006, on vit un peu dans l'illégalité, on va dire.
Voilà. Donc dans quelques instants, on va retrouver notre motard militant et citoyen, Guy, qui revient sur le flicage numérique avec les systèmes de transport intelligents et aussi des nouvelles technologies qui envahissent notre vie privée et aussi notre moyen de déplacement préféré, la moto, qui ne sera pas épargnée. Les infos de l'AFBF avec Daniel Torel, le vice-président de la fédération, l'édito du Motomag du mois de décembre-janvier avec Christophe Tillemans, le correspondant nord du mag. Christophe, bonjour.
Bonjour, Lémi.
Alors, deux mois de revue, donc aujourd'hui.
Oui, de mode revue, et en janvier, on prépare une surprise, on en parlera bientôt.
Très bien, voilà. À 12h, nous allons retrouver au téléphone notre guerrier de la FFMC, Honor, Jean-Yves Ballois, parti avec sa Triumph Rocket 3 à affronter le froid et la neige sur l'hivernal authentique. Bonjour Yanis, toi t'es spécial hivernal.
Oui, ce week-end, là, c'est l'hivernal authentique organisé par le MCP Les Mille Vaches, hein, ne pas confondre avec la concentration hivernale des 1000 vaches organisée par
la semaine prochaine.
Qui aura lieu la semaine prochaine, voilà. Organisée par le motoclub Mémacois. Hein, on a eu Bill il y a 15 jours au téléphone, voilà, qui nous a expliqué la différence entre les deux. Hein. Donc il ne faut pas confondre les deux.
Voilà. Et en troisième demi-heure, nous avons rendez-vous avec Patrick Cassuto. Patrick, bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Alors champion du monde. Champion du monde moto ancienne.
Hein,
premier de France, hein, avec Bruno aussi, hein, parce que Bruno aussi est champion du monde moto ancienne.
Ouais.
Donc alors vous avez participé au VMA. Alors dites-nous un peu ce que c'est que le VMA. C'est le championnat de vitesse de moto ancienne. Voilà. Donc 11 épreuves, hein, je crois, en 2014.
Peut-être. Hein, pas sûr encore.
Non, mais en 2014, il y avait combien? Il y avait
9.
Il y avait 9 épreuves, ouais. Hein, sur 9 circuits différents. Donc, vous avez terminé donc premier. Vous êtes monté sur la première marche du podium. La coupe a été remise il y a 15 jours lors du salon de motosalon à Vincennes.
Ouais. C'est ça.
Ça va, ça fait drôle, non? D'être premier de... Non, non.
C'était une belle journée.
Vous avez sablé le champagne, vous avez bu le champagne dans la coupe.
Ouais, aussi.
Ouais, ouais. Aussi,
et
oui.
Et puis, bon, bah, pour nous, c'est le résultat de on va dire, d'une opiniâtreté, puis d'une...
Alors, c'est long,
de beaucoup de mécanique.
La première épreuve a commencé au mois de mars, et ça se termine ouais. En octobre.
C'est ça.
Ouais, c'est...
Donc, puis, il faut que les motos tiennent,
faut que
les pilotes
le coup,
tiennent,
hein.
Parce que... Une épaule cassée ou quelque chose comme ça et tout est compromis. Donc,
voilà.
Pour arriver au bout, il faut aussi une certaine part de chance, hein, qu'on
puis,
a eue.
Et puis vous n'avez pas les tubes miracles qui font qu'en 15 jours, hop, une clavicule, elle est réparée. Hein, parce que j'en connais qui en 15 jours, hop, ça réparée. Mais vous n'avez pas les tubes bibles. Hein.
Oui, tout à fait.
Voilà.
Ils n'ont pas le même âge.
Voilà, vous n'avez pas le même âge. Oui, c'est ça aussi, pas le même âge aussi. Voilà. Et les infos club, c'est avec Christine. Bonjour Christine.
Bonjour.
Et puis la programmation musicale est signée. Laurent Lerollier. Voilà, on va revenir sur cette affaire du complexe. C'est quand même l'affaire majeure de cette émission, Bruno, quand même, hein, parce qu'il y a une menace de, enfin, il y avait une menace de fermeture, hein, sur ce complexe moto, la montagne de fer à Lausanne. Et donc, on a décidé d'homologuer donc le circuit.
Oui, tout à fait.
Donc, mais par contre, il n'y a pas assez d'argent dans la caisse pour pouvoir réaliser les travaux.
Voilà.
Donc, il y a une demande de don qui a été faite pour les motards. Il y a un formulaire à remplir.
Oui, tout à fait.
Et on envoie son chèque à une adresse précise.
Bah, on peut télécharger donc le formulaire sur le site du complexe moto. Hein. C'est complexe-moto.free.fr. Et donc après l'envoyer ou donc le porter directement à l'accueil du complexe moto.
Donc voilà, il y avait une petite cagnotte dans la caisse du complexe, hein, mais c'est pas suffisant pour pouvoir réaliser les travaux en fait.
Disons que le complexe on prépare toujours de l'argent si tu veux pour remettre en état le circuit,
voilà,
pour faire des petites réparations, tout ça.
Oui.
Donc pour le fonctionnement.
Voilà.
Ouais. Et donc bon, sur cette cagnotte, on s'est prélevé 100 000 euros.
Voilà.
Donc
il faut 270 000. Il faut 270 000 euros, hein, pour réaliser les travaux.
Ouais.
Hein, c'est un devis qui a été fait par la FFM.
Donc la FFM nous a fait un compte rendu. Et de ce compte rendu, donc on a contacté des sociétés, hein, beaucoup de sociétés. Et donc on a bien sûr.
Donc il y a eu un appel d'offres, je suppose.
Pardon. Oui, on a fait un appel d'offres.
Voilà. Hein, voilà.
Et puis donc on a fait des choix parce qu'on avait plusieurs possibilités. Et on a fait les choix qui correspondaient à ce qu'on pouvait faire, à ce qu'on voulait faire et ce qu'on peut faire. Quoi.
Est-ce que demande aussi la
FFM, bien sûr.
La FFM,
hein. Oui, bien sûr. Hein.
Donc, parce que c'est un mot avec vidéo pour pouvoir surveiller la totalité du circuit en permanence.
Voilà, c'est ce qu'on nous demande.
Hein, c'est
de savoir ce qui se passe sur
donc
le circuit.
Donc, avec des personnes qui vont devant des moniteurs, qui vont regarder le.
Oui, une personne va.
Une personne. Hein.
Une personne suffira.
Voilà, c'est ça. Ouais. Ouais. Et donc, pour pouvoir. Donc, il manque 170 000 euros, en fait.
Voilà.
Voilà.
Donc, on a des pistes. Hein, donc, on va.
Donc, il suffit d'avoir. De donner 10
mécène.
Euros à
un
mécène,
ah ouais.
Ou alors.
Ouais.
10 euros.
Alors, beaucoup de
chaque motard donne. Voilà, hein, chaque motard donne 10 euros.
Voilà.
Et puis, hop, on est sorti d'affaires.
Oui, ouais, c'est ça. Enfin, on est très très optimiste, hein, parce que bon, c'est vrai qu'avec une pétition et avec 12 000 signatures, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de gens qui tiennent donc à ce complexe moto. Et donc, je veux dire, un an pour trouver des subventions, des sponsors et des dons, c'est tout à fait envisageable. Donc, les travaux, les gros travaux, commenceront donc fin de l'année prochaine. Donc, ce qui nous laisse encore une année pour pouvoir rouler en plus dans cette configuration-là.
D'accord. Donc le formulaire de don, ben, on le trouve aussi au complexe, je suppose.
Ah,
hein,
bien sûr, oui, tout à fait.
On le trouve sur le site du complexe
du
moto.
Complexe, sur le site des Bargeaux aussi, s'il y en a qui connaissent.
Ouais. Et puis, on remplit, on met sa signature, son adresse mail, sa signature. Et puis, il y a soit un mode de versement, chèque ou virement
c'est
en espèces.
Ouais, tout est bien détaillé sur le formulaire.
Voilà. Est-ce que il va y avoir au fur des mois, à longueur de mois, on va avoir des infos si
oui, tout à fait.
On va connaître l'argent qui rentre.
Où on en est
au niveau des versements.
Oui, c'est ça. Donc on s'occupe de ça, de faire connaître donc
de communiquer sur le site.
Oui, ce sera sur le site. Hein,
d'accord.
Ouais.
Voilà.
Tout à fait.
On va savoir à quelle somme on en est pour.
Voilà.
Mais concrètement, s'il y a 12 000 signataires, hein, pour le maintien du circuit, si chacun donne 15 euros, le circuit est sauvé.
C'est ça.
C'est un espèce de téléthon, quoi.
Voilà.
Oui, bien joué, Laurent. Oui, c'est effectivement un téléthon.
Je sais, j'ai donné 25 000 hier.
Ah, super.
Bon, voilà. Très bien.
Baby blue eyes.
Voilà, tout de suite au téléphone, vous allez retrouver notre motard militant et citoyen Guy. Bonjour.
Bonjour à toutes et à tous.
Guy, tu vas nous parler du flicage numérique et des nouveaux systèmes de transport intelligents.
Voilà, la fois dernière, on avait parlé des systèmes de transport intelligents, ce que les constructeurs introduisent dans nos véhicules. Et donc, notre moyen de déplacement préféré, la moto, ben, malheureusement, ne va pas y échapper. Et donc, c'est un propos à partir de l'article vu sur Moto Magazine, l'édition papier, là, de décembre et janvier, dont Christophe va nous parler et nous a déjà parlé. Et c'est l'article signé de Didier Bouard. Donc, j'ai essayé d'élargir un petit peu, et j'ai fouillé un peu sur le net, notamment sur les sites challenge.fr, Largus.fr, Numerama.com, où des journalistes ont fait part de leurs découvertes et de leurs inquiétudes, voire. Et donc, le sujet de Moto Magazine nous dit « Nos déplacements sur le web, comme sur la route, génèrent quantité d'informations numériques. » Et donc, la question, c'est que ces données pourront demain être utilisées contre nous. Et Didier Bouard donc cite l'exemple d'une motarde, enfin d'un moto d'un couple qui s'est vu flasher le 13 octobre 2012, qui s'est vu flasher à Dompère dans les Vosges à 141 km/h au lieu de 90. Et donc comme la photo était prise de dos, elle ne permettait pas de reconnaître le pilote et le propriétaire de la moto, qui est policier municipal, a nié être l'auteur de l'infraction. Même réaction de sa femme. Donc l'affaire aurait dû être classée sans suite, faute de preuves. Mais les soupçons se sont portés quand même vers l'épouse, car elle possède également le permis. Et par ailleurs, un dépassement de plus de 50 km/h constitue un délit en cas de récidive. Donc le parquet a lancé une procédure inédite, la géolocalisation du portable de l'épouse pour la période des faits. Et donc son téléphone, à cette épouse donc, son téléphone a activé des relais positionnés sur le parcours en question. Et donc le parquet l'a poursuivi en justice. Et donc se pose des problèmes parce que la preuve de la culpabilité n'était pas faite. Cette dame pouvait fort bien se trouver sur ce chemin-là, mais dans un autre véhicule. Et donc non pas au guidon de la moto. Donc son avocat a plaidé, il a plaidé surtout une violation flagrante de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui stipule que toute personne a droit au respect de sa vie privée. Et donc finalement, après appel du parquet quand même, finalement la motarde a été blanchie. Et donc ce fait divers illustre le changement sociétal majeur qu'on est en train de vivre. Chaque jour, il faut savoir qu'on génère 2,8 trillions d'octets de données par les images, les mails, les vidéos, les réseaux sociaux, les signaux GPS, etc. Et donc toutes ces données sont appelées big data. Et il y a une quantité d'informaticiens qui travaillent à organiser ces données. Et ça va très 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 loin parce que les premiers résultats aujourd'hui conduisent à proposer à l'internaute des publicités ciblées. Hein, quand vous baladez dans un supermarché, enfin des choses comme ça, on peut vous transmettre des publicités concernant l'endroit où vous êtes. Si on va au-delà, il y a la surveillance vidéo. Donc l'article de Motomag dit « De la surveillance vidéo à la vidéosurveillance, il n'y a qu'un pas ». Parce qu'il faut savoir en effet qu'on sait reconnaître les plaques d'immatriculation via des caméras. Hein. On en a parlé notamment lors du projet de péage des routes là qui vient d'être retoqué, où on sait reconnaître les plaques d'immatriculation, et donc on sait reconnaître aussi les visages. Et donc on a pu entendre aussi très récemment l'apparition d'une nouvelle façon de s'assurer, et dont le principe est d'accepter l'installation sur son véhicule d'un dispositif qui surveille notre façon de conduire. Et d'après notre façon de conduire, on va ajuster le montant de la prime d'assurance. C'est extraordinaire. Et donc là, c'est la société AXA, en l'occurrence, qui a déjà fait de la publicité, en gros, en milieu d'année. Hein. Et donc, c'est déjà tout à fait opérationnel. Il faut savoir aussi qu'il y a un projet de directive européenne porté par le Comité permanent de sécurité intérieure, le COSI, qui voudrait qu'à l'horizon 2020, les voitures vendues dans l'Union européenne soient équipées d'un système permettant de le stopper à distance.
Alors où on va, là, Guy, hein ? C'est incroyable, ça.
Où on va ? Exactement, c'est fou. C'est le but, en fait, de mon propos. C'est fouiller un peu sur Internet, pour ceux qui ont la possibilité et l'envie, hein. Mais ça devient absolument extraordinaire. Alors, un autre exemple qui est cité sur l'un des sites que j'ai cités, les gens peuvent se dire, mais moi, je suis pas concerné, parce que de toute manière, je ne suis pas délinquant, je ne suis pas concerné. Eh bien non, pas du tout. Pas du tout, parce que avec l'affaire Snowden, dont vous avez forcément entendu parler, on a montré qu'on est capable de repérer quelqu'un par l'intermédiaire de ses connaissances. Et on va jusqu'à 3 rangs de connaissances, c'est-à-dire la personne qui connaît la personne qui connaît la personne. Et donc ils ont réussi au Yémen notamment à identifier des gens d'Al-Qaïda et des terroristes, en fait, qu'ils ont réussi à tuer par le fait que leur femme avait envoyé un email à une amie. Donc ils ont repéré cet échange et ils ont ainsi localisé le terroriste. Donc ça va très très loin. Il y a un autre article qui est assez intéressant aussi, qui consiste à repérer tous vos déplacements dans la journée. Ça existe. C'est l'article sur challenge.fr de Jérôme Le Fiatre qui dit le Google, via le système d'exploitation Android, est en mesure de retracer l'ensemble de vos déplacements d'une journée donnée si vous n'avez pas pris la précaution de désactiver le service de géolocalisation de votre appareil. Bref, on est pisté de partout et la moto, comme les autres véhicules, vont générer des quantités d'informations avec des capteurs de toutes sortes et on va vous proposer, on va vous dire que ben il faut aller réviser votre véhicule parce qu'il a un souci à tel endroit. Des boîtes comme Altran, qui sont spécialistes mondiaux du conseil dans l'innovation et l'ingénierie, veut transformer le big data donc généré par tous les capteurs en un nouveau business. Donc ça va aller très 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 loin. Et donc, Didier Bouard de Moto Magazine concluait, c'est un véritable défi que les motards sont parmi les mieux placés pour relever, eux qui ont toujours entretenu un esprit libertaire. Tout ça pour dire qu'il y a un sacré boulot à la clé et qu'il faut être vigilant à tout, parce qu'on va donner des informations en quantité incroyable sans qu'on le sache, sans qu'on s'en aperçoive.
Très bien, merci Guy. Voilà. Nous, on va se brancher sur Internet hein, pour aller voir ce qui se passe au Parlement européen.
Ouais, tout à fait, Et donc, j'en profite pour dire, pour souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année à tous et à toutes.
Merci et à toi aussi, Guy. Merci.
Salut. Au revoir.
Voilà, aujourd'hui, nous avons rendez-vous aussi avec Daniel Torel, vice-président de l'AFBF, Fédération des Backers de France.
Tout à fait.
C'est ça, hein. C'est pas planté, là. Non,
c'est parfait.
Donc, un nouveau café repère donc, de l'AFBF.
Absolument. C'est donc un nouveau point de rencontre qui se situe à Wormhout, hein, sur l'autoroute Lille-Dunkerque. Je ne sais plus quelle sortie, mais ça va être Berg-Wormhout. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un point de rencontre ? La fédération a développé depuis maintenant 3 ans un maillage national avec un ensemble de partenaires qui sont capables d'assurer un très très bon accueil aux motards en général et aux bikers en particulier. Et le Baroque à Wormwood, c'est un café où il se passe pas mal de choses pour le monde de la moto, concerts, animations, et le tout bien sûr à des prix plutôt bikers ou motards dans tous les cas. Donc c'est intéressant parce que l'accueil est bien réservé aux motards et surtout un grand grand parking devant, ce qui permet à toute moto de se garer sans aucun problème. Voilà, donc ça c'est un nouveau point rencontre, c'est le deuxième donc sur le nord, et on espère encore en développer à peu près tous les 50 km.
Ah, tu venais parler aussi des artisans, vous avez retrouvé, vous avez rencontré des artisans qui travaillent dans la préparation de machines.
Voilà, tout à fait, c'est-à-dire qu'on a rencontré deux artisans, un qui est très très connu, qui s'appelle Full Metal Motorcycle, qui se situe à Chapelle d'Armentières, dont Riton. Et un autre jeune créateur ou concepteur de concept show issu des années 70, pour ceux qui ont connu ça, pour les flat track, etc. Toute la compétition des motos qu'on pouvait voir aux États-Unis dans les années 70. Et c'est un jeune gars qui a 22 ans, qui était le plus jeune chef d'atelier d'une grosse marque américaine, donc c'est vraiment une référence et qui construit à la perfection des machines sur mesure, un peu dans le même principe que la haute couture Omentis qu'on peut retrouver chez Full Metal Motorcycle. Ce sont des gens qui sont capables de concevoir des motos de A jusqu'à Z en toute qualité bien sûr et sécurité bien évidemment. Donc ce sont des gens à rencontrer et surtout ils ont des tarifs qui permettent d'être accessibles à tous au niveau de la création et aussi de l'entretien de la moto. Ça, c'est important.
Très bien. On parle aussi de décembre, ce sera l'anniversaire donc de l'AFBF. C'est 4 ans, je crois. Hein.
C'est la 4e année révolue. Donc on est dans notre 5e année.
Alors, c'est tout jeune, c'est un bébé encore. Hein.
Ouais, c'est un bébé.
La génération était encore...
C'est vrai. Mais comme tout bébé, les parents sont...
Un gros biberon, hein.
Ah oh, oui, c'est des gros biberons. Mais bon, avec des liquides de croissance très efficaces.
Ah, oui. Ah bah tiens.
Donc oui, effectivement, le 13 décembre, anniversaire de la Fédération. Donc 106 rue de la Jarrie à Vincennes. C'est notre local, je dirais, quasi permanent. Animation, concert, enfin bref, la grosse fête. Comment on sait le faire dans le milieu? Ouvert à tous. Et à tous, bien sûr. Et c'est aussi un petit peu la clôture de l'année où on pourra voir avec les membres et les gens qui viendront nous rendre visite, expliquer un petit peu les 400 animations qu'on a pu faire sur l'année, sur le terrain, enfin tout ce qui se passe et ce qui va se passer en 2015. On va profiter aussi de cet anniversaire pour faire ce qu'on appelle le Run des Pères Noël qu'on fait tous les ans. Et on va permettre à un ensemble d'enfants de faire des balades dans Paris sur un circuit qu'on a concocté de à peu près 12 km. On va leur faire des balades sur le Mono Custom. On va leur offrir jouets, cadeaux, etc. Et aussi permettre aux parents, à tous ceux qui ne connaissent pas ce milieu-là, de se balader sur des engins un petit peu bizarroïdes pour comprendre l'intérêt et ce que fait ce qui nous anime au quotidien. Donc voilà, c'est l'anniversaire le 13 décembre.
Très bien, on trouve toutes ces infos sur le site.
Oui, tout à fait. Donc deux possibilités, Facebook, Fédération des Bikers de France, ou sur le site web FBF. Dernier point important, notre trucks. Alors, qu'est-ce que c'est? Nous avons investi dans un camion américain.
C'est un gros camion, un Kenworth.
Un Peterbilt. Ouais, ouais. Donc, un engin de collection qu'on a restauré complètement.
Un truc qui bouffe 200 litres au 100, ça, non encore.
Non. On fait très, très attention au niveau.
Pour la planète, c'est pas très.
Non.
C'est long, quand même.
Mais ça roule, hein, ça roule pas beaucoup.
Ça fume.
Ça fume beaucoup moins. Non. Donc, c'est un truck qu'on va avoir sur toutes les routes de France à partir donc, de 2015. Avec un hospitality de 170 mètres carrés, avec bande puissance, avec dortoir, ouais. Tout ce qu'il faut, concert, bande sono, pour pouvoir accueillir tous les gens qui viendront nous voir.
C'est un truc télescopique, ça sur les côtés, ça s'agrandit en fait.
Ouais, absolument, hein, comme ce qu'on peut voir sur les stands de Formule 1.
Ça monte, ça descend, ça...
Ça fait tout.
Ça fait tout.
Quoi. Ça fait tout, même le café pour ceux qui viennent nous voir.
Ah ouais, ils ont des sous. Hein.
Et je pense qu'on verra, on le verra donc au Salon de Pécancourt, je crois, le 14 et 15 mars.
Alors, Daniel, on a retrouvé le formulaire de la pétition pour le circuit. Donc, apparemment, vous avez un peu d'argent, quoi, puisque vous avez des camions, tout ça. Un petit don au circuit, ce serait bien pour le complexe, tu vois.
Oui, j'ai compris que vous avez lancé un motartron.
On fait le motartron aujourd'hui.
Ou un circuit.
Pour le complexe moto. Hein,
ou un circuiton.
Un euro, 2, 5, 10, 20, 100, hein, Daniel.
Eh bien, écoute, très honnêtement, en tant que biker et motard, on participera bien sûr à ce qui nous anime au quotidien.
Bruno, tu vois, il suffit d'être un petit peu perspicace.
Non, c'est pas de la perspicacité, mais au bout du bout, même si si on a une vocation à rouler différemment, on reste quand même des motards au bout du bout. Et c'est important que chacun puisse, je dirais, assouvir sa passion en toute sécurité.
Merci Daniel.
Voilà.
Talk to my baby. On the telephone, she said, stop what you're doing and come on home. I can't hold out. I can't hold out too long. I get a real good feeling talking to you on the phone. Say, baby, don't you worry. Don't you cry. You know I love you, baby. You're my heart's desire. Can run, walk or fly. You know I love you, baby. You're my heart's desire. I can't hold out. I can't hold out too long. I get a real good feeling talking to you on the phone.
Donc, on va partir avec l'édito du mag de décembre-janvier avec Christophe.
Voilà. Alors,
l'édito, bah, en fait, c'est le flicage numérique. Hein.
On va tout à fait. Guy a effectivement ouvert la voie du magazine donc de ce mois-ci, des deux mois, hein, puisque c'est décembre-janvier. Il n'y aura pas de magazine en janvier. Et donc, effectivement, il faisait référence à cet article hein, donc, concernant le Big Data. Et alors, il y a un complément à ce qu'il a dit. Il y a un autre article concernant la circulation interne. fil. On en a déjà parlé plusieurs fois. Je rappelle, hein, une expérimentation a été décidée donc fin 2013 et très récemment, donc au mois de septembre, la CEREMA, donc c'est le Centre d'études et d'expertise sur les risques environnement, mobilité et aménagement, a passé une annonce concernant la fourniture et l'installation de dispositifs de détection des deux roues motorisées dans le trafic. Donc quand on se dit l'écotaxe n'existe plus, les portiques, on sait à quoi ils vont servir. Et donc le but, alors évidemment la fédération s'en est émue et on pense tous, tout à l'heure on avait la discussion sur le sujet contrôle. Non, c'est pas un contrôle, c'est un comptage. Parce qu'aujourd'hui on sait pas compter les deux roues motorisées dans le trafic et donc les sociétés auxquelles il est fait appel là par appel d'offres vont devoir développer des systèmes de comptage des deux roues motorisées dans le trafic. Donc l'expérimentation, elle porte essentiellement par l'apport de ces nouvelles technologies.
C'est la FDF qui va faire la gueule, hein, parce que là, au contraire, c'est eux, c'est rouler libre, cheveux au vent et tout. Alors, avec les comptages, tout ça, Daniel, hein.
Voilà, alors, ce dont on est sûr au niveau de l'expérimentation, c'est que trois villes sont évidemment sélectionnées, Paris en tête et le périphérique, donc, dont on est sûr qu'il sera équipé, et puis Lyon et Marseille. Alors, on y échappe, pour combien de temps? On verra. Donc, autre sujet, et bon, on est au mois de décembre.
Donc, c'est là-dessus, ça.
Tout à l'heure, tout à fait. Tout à l'heure, on parlait des hivernales. On en reparlera tout à l'heure avec un récit de voyage et puis l'intervention de Jean-Yves. Mais décembre, c'est la saison des cadeaux, c'est Noël. Et donc, j'ai relevé au fil des pages un sujet spécial sur les cadeaux de Noël, mais aussi le retour des salons et pour voir un peu les tendances produits aujourd'hui pour l'équipement du motard. Alors, évidemment, il y a une kyrielle de nouveaux casques. Il y a une tendance qui se dessine. C'est des casques lumineux.
Ah bon ?
Eh oui, maintenant, les casques s'équipent de LED.
C'est dingue, ça.
Eh oui, on intègre les LED dans les calottes. Et donc, c'est vraiment de nouveaux modèles qui sortent. Alors après, on peut discuter sur l'esthétique, au niveau sécuritaire, certainement intéressant. Il y a même chez Nolan, par exemple, un flash lumineux rouge qui se met en route quand vous avez un accident. Donc d'accord. Ça part quand même de... Alors, des adaptations... Et
comment le casque, c'est que... Comment il sait que t'as un accident?
Il se transforme en gyrophare.
Quand tu sur la moto. C'est comme les airbags, hein. J'imagine...
C'est bourré de capteurs, alors justement...
Alors, vous aviez l'autre jour donc un équipementier qui nous parlait de l'airbag sans connectique. Donc là, chez Alpinestar, on a une présentation. Alors, c'est pas donné, hein, 1 200 €. Là, c'est déjà un super cadeau. Et puis, il faudra prévoir un contrôle donc tous les 2 ans de 200 € pour sont des coûts additionnels de révision.
On va donc, changer les piles.
La sécurité a un prix.
Ah oui.
Alors pour ceux qui voyagent en duo, j'ai relevé donc une veste chez Behring avec des poignées de maintien pour le passager ou la passagère.
Donc... C'est pratique. Ça, hein. On cherche. Parce
bah ça dépend des motos. Hein. Il y a quand même des motos qui sont pas bien équipées.
Les poignées sont situées où?
Ça fait très.
Les poignées maintien sont situées où?
Alors. Elles sont dans la poche, donc...
Ah, mais à quelle hauteur du corps
Au niveau des hanches.
C'est le modèle Kangourou.
Au niveau des poignées d'amour. Bon.
On n'ira pas plus loin.
Mais tu nous fais rire aujourd'hui.
Oui, j'ai décidé de vous faire rire.
C'est vrai qu'il est camo, là.
Même avec la photo dans le mag, on cherche où sont les poignées. Alors, bon, dans les cadeaux un peu kitsch, moi j'ai relevé un nain de jardin. Un nain de jardin, donc, sur sa moto. C'est KTM qui vous... Donc, si vous cherchez... Un accessoire vraiment kitsch. Là, vous avez trouvé. Autre chose, je ne sais pas si vous avez commencé comme ça avec le carton et la pince à linge sur le vélo pour faire un peu bouillir le mob. Voilà. Eh bien, vous pouvez acheter ça avec un super pot qui est la copie conforme de l'adaptable sur la Ducati Panigale.
Ça coûte 3 000 €.
Non, ça coûte 25 €. Mais bonjour les voisins. Donc j'ai relevé aussi un super cintre donc, pour mettre le blouson. On a tous cassé un jour ou l'autre un cintre parce que son blouson de moto était trop lourd.
Voilà. Ah oui, c'est
donc,
vrai.
Il y en a qui
a tous pété un cintre.
C'est vrai.
J'ai fait moi-même les cintres. En bois, comme ça, il casse pas.
Ah voilà.
En titane.
Voilà. Et puis c'était la Gentleman Rider. Oui. Donc si vous voulez vous équiper pour la prochaine, vous avez toute une collection là de cintres pour la touche classe de tour de cou que vous pouvez acquérir. Ouais. Donc je rappelle qu'il y a évidemment toute la biographie concernant les bandes dessinées, les super bouquins d'art sur la moto ancienne, les pilotes de légende, etc. Vous trouvez ça sur la boutique en ligne de Motomag. Mais si vous voulez découvrir leur nouveau siège qui est à Montreuil, ils sont ouverts ce week-end.
Ah, parce que vous aussi, ils ont un nouveau siège.
Et le week-end prochain.
Une petite, un petit don.
Un gros don.
Parce que ils sont vieux.
Il faut déjà qu'ils pendent la crémaillère, hein, qu'ils nous invitent. Et puis, voilà, on ira les voir.
Au complexe moto, hein, allez, 20 euros. Ça mange pas de pain.
Ils sont riches.
Voilà, donc vraiment, pas de raison pour pas s'offrir le cadeau qui nous plaît et qui plaît.
I love you cause you do so well. Down like a double shot of love is so fine.
Alors toujours dans l'édito du MAG de décembre-janvier, Christophe, on va parler des nouveautés et des salons.
Voilà, c'est le temps des salons. Effectivement, le mois dernier, c'était le retour du salon de Cologne. Là, c'est le salon de Milan. Et puis, il y a bientôt le salon de Bruxelles, le salon de l'auto et de la moto qui se prépare. Donc, l'occasion de passer en revue toutes les motos. Alors, dans le MAG déjà du mois dernier, il y avait la Kawa à 50 000 euros, 200 chevaux. Là, c'est pareil. Il y a quelques modèles à 200 chevaux en full power. Et puis, on en parlait hors micro, mais justement, c'est un courrier des lecteurs de Romain là, qui dit « Mais à quoi ça sert tout ça ? Débauche d'équipement, débauche de chevaux. Qu'est-ce qu'on veut, finalement ? Le plaisir de s'évader, hein, on en parlait tout à l'heure. On peut très bien prendre son plaisir avec des anciennes ou avec des motos qui n'ont pas cette débauche de technologie.
On en parlait, Christophe. Il y a même le circuit de le complexe moto, il est trop court, il est trop petit, on peut pas essayer la Kawa H2.
Tu fais le tour en première. Et encore.
Ou en marche arrière.
Voilà, donc le MAG revient sur toutes les sorties, donc je vous fais passe le détail si vous voulez de la liste, mais dans tous les registres de moto, suivant que vous êtes trail, roadster, sportive, GT, vous trouverez la moto actuelle présentée avec ses nouveautés. Concernant décembre, temps des hivernales, froid, bah aujourd'hui ça pince hein, quand même. Je crois que c'est la première journée où ça glisse. Moi je m'en souviens, hein, début de l'année.
Ah oui, moi aussi je me souviens.
Voilà. Donc oui. C'est pour ça que je suis venu à quatre roues là. Voilà. Et donc bah il y a Motomag donne quelques conseils. Alors je sais que Yanis t'avait parlé de ça il y a quelques semaines hein, concernant les hivernales, mais aussi comment on s'équipe pour rouler. Alors évidemment l'équipement, hein, donc pas trop serré, ample. Les arrêts, évidemment. Et
les trois couches fondamentales.
Bah vas-y, rappelle-les.
Il faut tout d'abord.
C'est la veste pour la passagère ou enfin.
Avec les bourrelets. Les bourrelets, tu étais où les poignets. Alors. Non, mais ça va, je suis pas équipé moi.
Le vêtement anti-froid. Alors, j'ai oublié de le dire tout à l'heure dans les cadeaux de Noël. Vous avez effectivement une polaire, hein, Christine. La polaire suédoise.
Écoute-moi, je la demande pour Noël.
Génial.
Père Noël, je veux ça.
Parce que voilà, ça vous tient chaud au corps.
Mais c'est très cher. Hein. Les équipements suédois, c'est vrai que les équipements
scandinaves sont.
Elle
n'est pas très chère
encore. Non,
c'est pas très cher. Elle est à 90 euros, donc elle n'est pas très chère. Pour ça que je la demande.
C'est vrai que le mieux, c'est de s'équiper chez les Scandinaves. Hein, s'il fait froid chez les Scandinaves ou chez les Canadiens. Le problème, c'est que c'est souvent un peu cher. On peut trouver à s'équiper correctement pour bien moins cher. On se souvient qu'une de temps en temps, là, il y a une célèbre chaîne de magasins Discount, on va pas citer de marque, qui vend des sous-vêtements juste au corps, là, qui sont portés aussi par les cyclistes. On met ça en dessous, un t-shirt, une polaire, un blouson, et on est paré. Blouson, hein, pas un blouson d'été, un pantalon d'hiver aussi.
Et puis si on est vraiment bêté, on met un Motomag devant, là, ça, hein, le journal, ouais. Ça protège, hein, on a tous expérimenté ça.
Le plus dur, c'est les pieds. Le plus dur, c'est vraiment les pieds.
Voilà. Alors, il nous rappelle quand même, avant de partir, c'est de s'informer, c'est de savoir quelles sont les conditions météo. En général, hein, si on part et puis que la neige tombe, ou alors on part avec Jean-Yves, il nous en parlera tout à l'heure avec sa paire de
on
ski.
On va essayer de le capter, hein, voilà. De le repérer avec les systèmes de flicage numérique. Là. on ne sait pas, il y a peut-être de la neige encore là-bas, à l'authentique.
Ah, hein. il neigeait dans Auvergne.
Ah, il neigeait dans Auvergne.
Oui, tout à fait. Hein.
On va l'avoir au téléphone.
Donc, préparer son parcours, effectivement, voir les conditions météo, la tenue, on vient d'en parler, et puis surtout préparer sa moto. Hein, donc, est-ce que vous avez des trucs là, tous
Il faut déjà partir avec une paire de pneus plutôt neufs, hein, avec des gommes. Alors, des pneus spécial hiver en France pour les motos,
mais
rodés, pas forcément. Rodés, bien sûr, hein, pas neuf qui glisse même à sec.
Voilà.
Et puis, il y a un tas de petits trucs qu'on peut utiliser quand il y a de la neige, hein, enrouler de la corde ou des rivissants autour de ses pneus. Hein, bon, ça ne sert pas longtemps, mais ça permet au moins de sortir d'une galère passagère.
Moi, j'ai un bon plan. Voilà, parce que les extrémités, c'est ce qui gèle en premier. Vous avez froid ou les doigts de pied et puis.
Tout le monde n'a pas des poignées chauffantes, la miche.
Des manchons.
Eh bien, vous allez dans le rayon alpiniste, dans les magasins spécialisés, et il y a des petites chaufferettes que vous mettez dans les gants. Et ça vous met à 20 degrés pendant 3 heures. C'est chimique en fait. Hein. Ouais. Et ça marche très bien. Ça
alors vous pouvez demander au Père Noël une paire de gants Quattro, hein, donc les gants chauffants. Bon, c'est 300 euros quand même. Hein, mais bon. Ils ont une garantie de 2 ans. Parce que...
Ah, quand même.
Bon. Quand même.
Non, mais il y a alors, la solution, les manchons, c'est moche, mais c'est efficace. Hein. Bon. Voilà. Et ça coûte 50 euros.
Et puis, je voudrais rappeler quand même, parce que moi, je me souviens d'un retour du Touquet avec du temps un peu comme aujourd'hui, où les étriers de frein, ils ont grippé. Donc, vous devez préparer la moto. Et le sel.
Oui, tu ne freines pas assez, Christophe.
Non, mais je te parle que des freins. Mais c'est toute la moto. Ouais,
tu prends des freins à câble. Hein.
C'est pas vraiment, écoute. Non, mais c'est 300 euros,
c'est toujours 300 euros. Tu sais.
On va voir dans le témoignage d'Éric là, sur la traversée de la Russie sur le sujet.
Mais je pense qu'on va peut-être avoir aussi Jean-Yves Ballois. Bah, il va nous parler un petit peu de ces petits
trucs pour
pas avoir
froid. Tout à fait.
Ouais, on va essayer de l'avoir.
Mais lui, il a les poignées chauffantes.
Ah, tu crois, ouais. Ah, oui. Mais je crois qu'il a mis des skis. Il a équipé sa moto de skis sur sa Rocket 3 de chaque côté. Hein. C'est un bricoleur. Ça évite de tomber. Forcément.
Autrement, il y a toute une gamme de
chenilles. Et des chaînes.
On pourrait penser que quand tu mets des skis, c'est pour glisser. C'est pour éviter de tomber.
Des chenilles. Ça existe, des chaînes pour moto. Il y a des petits artisans en Autriche qui vendent ça. C'est vachement efficace. L'année dernière, il y a 2 ans, en Millevaches, j'ai vu un mec en Transal qui roulait dans 30 cm de neige. C'était épatant. Les petites chaînes, c'était vraiment bien.
They were.
Voilà, puisqu'on parle hivernal, ben on va être directement là-bas en Auvergne avec Jean-Yves Ballois. Jean-Yves, bonjour.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous parle de la trou du cul du monde. Il fait à peu près moins 2. La nuit a été sympathique. Il faisait moins 1,5 dans la tente.
Oh, ça va.
Ça concerne. Allô ?
Ça va, oui, ça va. Oui. Jean-Yves ?
Par contre, le voyage a été... On est parti le jeudi matin et le jeudi soir en pleine forêt berrichonne, le bras de...
Tu as quoi ?
Le bras de suspension de la remorque a cassé.
Ah ! Alors ?
Il a fallu trouver des baguettes inox et un poste à souder qui accepte les baguettes.
D'accord.
Un patelin de 150 âmes. Ça a été assez folklorique, donc on a perdu quasiment une journée.
D'accord. Donc, mais t'as réussi à ressouder ?
Ouais, j'ai réussi à ressouder. La remorque est repartie comme en 14. Donc on a continué le voyage moderato parce que le temps était vraiment contre nous. Et puis on était vraiment dans la neige. Hein. Vous verrez les photos.
Il y a beaucoup de neige ?
Bon, il n'y en a pas beaucoup, mais ça caillait bien. Hein.
Ouais, bah oui. Mais...
Bon alors, Jean-Yves, les skis, là, que je suis venu voir chez toi à sec, sur le terrain, ça donne quoi ?
Eh ben, je les ai montés, mais uniquement pour descendre.
Ah ! Mais ça marche ! Enfin, ça glisse.
Ça glisse, mais bon, le problème, c'est que c'est tellement, le terrain est tellement défoncé, c'est des pâturavages, donc il y a des trous partout. Donc la direction n'est pas très précise. Les skis c'est bien, mais à condition de mettre les chaînes avec.
Oui, ah ben, on en parlait juste avant que tu passes à l'antenne. Effectivement, c'est indissociable. Est-ce qu'il y en avait d'autres qui avaient des skis ? Est-ce que vous avez fait des échanges de savoir-faire ?
Non, j'ai pas eu le temps parce que là c'est vraiment la course à la survie. Il faut essayer d'allumer un feu, tant bien que mal, sur un plateau avec un blizzard impossible.
Ah oui, ça souffle là-bas. Hein.
Je ne sais pas pour ceux qui ont fait du voilier, mais on a l'impression d'être sous les grands voiles qui s'asseillent sans arrêt.
Ah oui.
Ouais. Bon, moi, j'ai marché. T'étais à quel endroit précisément ? Parce que, qu'on précise, hein, c'est l'Authentique à laquelle tu as participé.
Oui,
donc, c'est pas sur le plateau des Mille Vaches. Hein.
C'est pas sur le plateau des Mille Vaches, c'est à Ardes. L'accueil se fait à Ardes et le rassemblement, c'est vraiment dans les pâtures à plus de 1300 mètres d'altitude.
Et c'est près de quelle grande ville ?
Ah, il n'y a pas de grande ville ici.
Oui, non, mais enfin, il y a. Non, mais dis. Bah, allez, effectivement, des villes touristiques.
Saint-Germain-de-Lambron.
Tout le monde connaît ici.
On connaît tout ça.
Tout le monde lève la main.
Tout le monde connaît. Bruno, il connaît. Alors, Bruno s'y connaît. Alors.
Bah, c'est des routes.
Il y a une ville que tout le monde connaît, c'est Issoire.
Vauxhall, Issoire.
Oui, voilà. Exactement.
Et puis, c'est des routes de motards, d'enduristes.
Les routes de motards qui sont douteuses. Plus ou moins, donc.
Et alors,
tant qu'on quitte les routes principales, c'est pas extra.
Il y a combien ?
Je vais devoir abréger peut-être parce que, avec le froid, la batterie, elle le tient très mal.
Oui,
il faut mettre des skis.
Et puis, on sent. Combien, là-haut, vous êtes combien ?
Qu'as-tu dit ?
Vous êtes combien là-bas ?
Combien là-bas ?
On était, aux dernières nouvelles, 1300, mais je crois qu'on devait être un peu plus.
Ouais, j'avais regardé sur le site, il y avait 1000 inscrits 15 jours avant, mais là, effectivement...
Très bien. Bon, donc, c'était une bonne soirée quand même, hier soir ?
Ouais, c'était une bonne soirée, mais chèrement conquise.
une vraie hivernale. Là.
Une vraie hivernale, alors. Là.
Ah bon. Oui, ça c'est...
Bon.
Et je tiens à signaler que, pour ceux qui la connaissent, Agnès Ferry l'a fête avec nous. Je tiens à lui tirer mon chapeau.
Bon, très bien. Écoute, Jean-Yves, on va te laisser parce qu'on sent que effectivement il y a une pression derrière là. T'es un peu essoufflé, hein. Et puis on sent qu'il y a eu, l'aventure là. Hein.
Combien de temps de route là pour revenir ?
Moi je compte 2 jours. Hein.
D'accord.
Bah, il neige dans le nord, à Lille. Hein. Il neige alors. Ouais, voilà.
Je remettrai les skis.
30 cm déjà.
Bon retour, Jean-Yves. Bon retour.
Au revoir à tout le monde.
Salut. We'll be right back.
see a DLJ sitting somewhere on the other side. Yeah, yeah. You get under my skin, you get right down to the bone. To the bone, yeah. Take me down. There's nothing like a paradise here. Everybody got it wrong. I'm the one who's gonna take a bullet in the back of the head when I'm done. You get under my skin, you get right down to the bone. Get under my skin. Ooh, right down to the bone. To the bone, yeah. All alone, one another and telling that bucket to sit on the throne. DLG. Shaking the tray to keep me sleeping with the enemy, huh? Yeah, yeah, yeah. You get under my skin, you get right down to the bone. You get under my skin. Ooh, right down to the bone.
On termine avec l'édito du MAG du décembre-janvier.
Oui,
et alors, ses récits de voyage.
Voilà, on est, bah avec Jean-Yves, là, c'était du vécu hein, quand même.
Oh, vous avez entendu ça, là.
C'était fort. Hein,
oh, dis donc, moi, je pense qu'il a, il en a bavé, je crois.
Alors, que, comme quoi.
Yannis, on... je crois que c'est ça, ça sent, là, on sent ça, dans ça le sent ton de la voix
et là, il est
que
en train...
c'était de l'hivernal, ouais. De la vraie.
Ouais, ouais.
Pas de, tu vois. Hein.
Et là, il est en train de se dire, putain, il neige à Lille, je vais me taper 600, 700.
J'aurais peut-être pas dû dire ça, peut-être.
Tu vois, il est alors, dans la tête. Je crois qu'il va rester dormir là-bas en attendant que ça se calme ici.
Ou qu'il descende sur la Corse.
Il neige aussi en Corse.
Et... C'est une excellente transition là, avec l'article que je vais présenter maintenant, parce que la devise d'Eric, donc, qui raconte son récit de voyage, qui est parti 4 mois en Sibérie, traverser donc, la Russie en plein hiver, hein, c'est, évidemment, aller en Sibérie. L'été, ça doit pas, ça le fait pas. Hein. Donc sa devise, c'est faire bien avec rien, faire mieux avec peu, mais le faire maintenant. Et donc je trouve que ça s'applique bien à Jean-Yves. Alors Eric nous raconte donc son périple. Il est parti avec un sidecar BMW de 1939.
Ouais, c'est pour un Harley-Davidson qu'il a fait le machin lien. Hein.
Voilà.
C'est,
alors
c'est avec une.
C'est une moto qu'il a acquise donc en 1977, avec laquelle il a fait l'Asie. Plusieurs fois l'Amérique du Sud et puis plus récemment le Cap Nord. Bon, excusez du peu.
Et donc, bah, vous savez, c'est souvent sur un coin de table, entre copains, on se lance un défi, on dit « t'es pas capable d'aller en Sibérie en plein hiver ».
Ah, c'est pas bon, ça.
Hein, donc, chiche. Et donc, bah, fin janvier 2014, il décide de prendre la route de la Sibérie avec son engin. Reconditionné oui. Au niveau moteur. C'est important parce que 400 km après le départ, il a failli serrer dans une montée des Alpes.
Ah oui, bon, quand même.
Et puis, bah, il a dit, ça va comme ça, j'y vais quand même. Donc, il a continué. Il a fait son bonhomme de chemin. Alors, pour l'accompagner, il n'était pas tout seul. Hein. Il y a François qui l'accompagnait pendant tout le périple. Et ils ont rejoint de cette façon-là, en quelques semaines, le lac Baïkal, donc, qui est la plus grosse réserve d'eau douce du monde. Au passage, donc, il est descendu sur le lac, parce qu'évidemment, à moins 40, là-bas, il n'y a pas de problème. On roule sur le lac. Le tout, c'est de trouver le point d'entrée.
Ça va pas durer, tu sais, avec le réchauffement.
Et donc, tu crois pas si bien dire. Ils ont quand même engagé leur side. La roue avant, elle a plongé de 20 cm dans l'eau.
Oh là là.
Bon, moment de panique passé. Ils ont quand même trouvé l'embarcadère. Et donc, bah, ils ont circulé. Alors, ils étaient la seule moto. Mais il y avait des camions, il y avait des hydroglisseurs, il y avait des gens à pied, il y avait des quads. Ah, et puis, il y avait ce side de 1939. Donc, alors, il a quand même été obligé de changer le joint de culasse en route, hein, puisqu'en fait, on pense pas, mais avec les températures qu'il fait, les éclaboussures qu'il recevait des gens qui le doublaient, parce qu'on roule à 30-35, hein, il nous raconte qu'il faisait 200 km par jour. Hein, moi, ça m'arrive de le faire à vélo. Lui, il faisait avant son sidecar 200 km par jour à 30-35 de moyenne parce que les routes sont défoncées, parce que les camions, eux, ils tracent. Et donc, justement, le côté gauche, le flat wing trop refroidi, il a été obligé de changer le joint de culasse en cours de route.
Oh, ça se démonte facilement.
Ça se démonte. Oui.
On le voit.
Alors, effectivement, là, j'avoue que je suis épaté. Parce que, compte tenu des conditions climatiques, apparemment à moins 20, ça roule, autant pour les mécaniques que pour les hommes. À moins 40, là, ça devient beaucoup, beaucoup plus compliqué.
Il
nous raconte, et c'est même dangereux, il nous explique quand même avoir vécu une expérience douloureuse, pourtant à par moins 25. Alors attention, hein, pour avoir fait un petit séjour au Canada, les températures affichées et les températures ressenties. Hein, puisque tout à l'heure on parlait du vent en Auvergne, vous pouvez avoir un 0 ou un moins 5, mais avec le vent c'est autre chose. Et donc on annonce toujours dans les grands froids les températures ressenties, parce que c'est quand même celle-là qui est agressive. Donc voilà, vous trouverez donc la présentation, et il est rentré alors 9000 km de ses bases auvergnates, et puis son retour donc direct par la Russie, 9000 km quand même, et 4 mois pour faire ce périple vraiment passionnant que je vous invite à découvrir donc dans le Motomag de décembre.
Et la moto, elle faisait que 18 chevaux. Hein. Avec le sidecar et le passager, 18 chevaux, c'est à peine plus qu'une 125.
Ça sert à rien d'avoir 350 chevaux, tu vois, pour avoir les sensations. Hein.
D'ailleurs, oui, il explique que son singe, là, François, il était obligé de descendre sur certaines pistes, parce que bah, déjà, ça passait pas au niveau de la charge. Et puis, ils ont quand même passé des routes défoncées. Il a dû faire demi-tour, il voulait atteindre la Mongolie. Et donc, compte tenu du plan d'avancement, ils ont vu qu'il n'arriverait pas à rentrer dans les temps limites du visa, et donc l'expiration de son visa étant à portée de son voyage, il a décidé de rentrer direct.
Voilà, c'est terminé, Christophe, pour l'édito.
J'en ai terminé, il y a beaucoup d'autres choses, mais vous le découvrirez.
Ah, il est gros, hein, le motomag.
Ben oui, c'est deux mois.
Deux mois, tu viens de dire.
Voilà.
Et c'est même prix que pour un.
Ah oui.
Voilà.
Tout à fait. We'll be right back.
terminer cette émission avec le avec Patrick Cassuto et Bruno Palinski. Et Bruno, on a retrouvé le chemin pour aller remplir ce formulaire de don. Donc il faut faire Piste Le Zen, c'est
voilà,
ça?
Voilà, j'ai été sur pistelezen.free.fr. Vous tombez sur la news, en fait, sur la lettre qui explique le problème. Et en fait, au bas de cette news, vous cliquez et vous tombez directement sur le formulaire.
Voilà, c'est pas compliqué. Ouais, c'est voilà. Bon, on parle VMA. Donc, Patrick, d'abord, VMA, ça veut dire quoi?
Championnat de vitesse moto ancienne.
Donc vous avez terminé tous les deux premiers, donc Patrick, toi en série Vintage.
Vintage 650.
Vintage et classique. Ouais. Alors dites-nous quelle est la différence entre la Vintage
voilà,
et
les différences, et
les différences. Expliquer un peu aux éditeurs. Hein,
voilà. La différence entre Vintage et classique, grosso modo.
C'est la puissance
Non, c'est le type de frein.
Le type de frein, d'accord.
Le type de frein, 650, bon, il y a la cylindrée bien sûr, ouais. Mais tout ce qui est Vintage, c'est donc des freins à tambour. Hein, donc nous, alors qu'en 750 classique, on a le droit au frein à disque. Donc c'est, on va dire, c'est une autre époque. Hein. En fin de compte, le type de frein, grosso modo, c'est des motos, les freins à tambour, c'est jusque 1965, 66, 67, et après jusque 60. Après ça, c'est des freins à disque.
Bon, expliquez-nous, c'est un vrai championnat, ça. Il y a beaucoup de concurrents. C'est sérieux ou
bah, c'est un championnat de France déjà qui est donc géré par la FFM. Hein, donc avec 9 courses au programme, dont une manche en Espagne. Espagne. Et donc bah, tu peux nous dire comment ça se déroule
Comment se déroule, Patrick, un week-end de course?
Alors d'abord, on prend congé le jeudi parce qu'il y a de la route. Ça commence comme ça.
Bah, en Espagne, on prend même mercredi peut-être.
Non, on se débrouille jusqu'à présent toujours à partir le jeudi. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de courses qui sont faites dans le sud, Nogaro, Pau, l'Espagne.
Donc en fait, c'est vos vacances. Alors vous passez vos vacances sur le circuit. Quoi.
En plaçant des week-ends de course, c'est ça. Et donc, on part le jeudi. Le vendredi, c'est des séances d'essais libres, donc qui sont organisées par le circuit, on va dire, et les organisateurs des manches. Donc, la journée est répartie suivant le temps, le nombre de catégories qu'ils ont à mettre en piste. Donc, une, deux, trois, quatre séances d'essais libres selon les places disponibles. Le samedi matin, traditionnellement, c'est les essais qualificatifs, donc ils vont nous donner notre place en grille pour le départ en fonction des temps réalisés. Souvent, le samedi après-midi, la première course, puisque ça se déroule en deux manches, et le dimanche, la deuxième course, donc matin ou après-midi, pareil, suivant le calendrier et l'organisation des différentes manches.
Alors la moto ancienne, c'est, comment on va dire, il risque de casse, de problèmes mécaniques. Est-ce qu'on a le temps entre les deux courses, entre les deux manches,
parfois.
De réparer à mon avis, je dois y avoir des petites...
Parfois, c'est juste, ouais, parce que les courses s'enchaînent quand même à un rythme assez dense. Donc, il arrive qu'on ait couramment des week-ends de course toutes les deux semaines. Donc, ça laisse que pratiquement une semaine à temps plein pour pouvoir travailler sur la machine si on a eu un gros ennui sur une course, pour la remettre en état pour la course suivante.
Une chute ou une casse, parce que vous tombez aussi, casse. Donc il faut changer.
Vous avez chuté sur toute la saison?
Moi j'ai une chute, Bruno, je pense.
Moi cette année aucune chute, mais l'année passée trois.
Ouais, il a tout fait l'année dernière pour être tranquille cette année.
Donc Patrick, Norton Domi Racer, c'est quoi?
C'est initialement un 500 qui avait été fait en 61 par l'usine Norton pour le Tourist Trophy. Donc ils en ont fait 7 machines d'usine. Et puis, donc celle-là, c'est une reconstruction à l'identique, d'après les photos d'époque et puis les données que Bruno, à l'époque, avait pu recueillir.
Bon, là, vous êtes monté sur la première marche du podium. Hein, vous avez eu la coupe. Hein, on vous a pris en photo là-bas, à Vincennes. Ouais. Hein, ouais. Vous étiez beau. Hein, des guerriers, des Apollons, le sourire, tout ça.
Bah, oui, parce qu'on était content de la voir parce que ça se mérite. Hein.
Est-ce que vous avez fait toutes les courses, hein, tous les rendez-vous pour gagner? Il faut faire absolument.
C'est mieux. Tous les rendez-vous. Il faut cumuler les points.
Faut cumuler les points.
Une course ratée, c'est des points potentiellement perdus. Et bah voilà quoi, à la fin on fait le compte. Hein.
Bon, c'est le budget de cette saison, ça fait combien ça?
On va pas parler de budget.
Oula.
On va plutôt parler de.
Ça doit faire des sous ça, non?
Ouais, ouais, ça fait mal.
Comme des vacances.
Même si on se. Même si on va.
Disons qu'on. Justement, comme.
À plusieurs,
comme les déplacements,
on se débrouille. Hein.
Bah voilà, les déplacements reviennent coûte cher, c'est un des points les plus chers. Donc on part toujours en fourgon à plusieurs motos avec une remorque derrière, de manière à justement à diviser ses frais, parce que c'est les déplacements, les péages, le gasoil, tout ça, c'est ce qui coûte.
Donc vous faites partie des amis de la moto.
Voilà.
Oui. Hein,
vous êtes combien à faire ce genre de...
Ouais, en général, on part à 4.
Il y a 4 inscrits aux amis de la moto.
Oui, tout à fait. 4... Même plus que ça.
Parce qu'il y en a d'autres.
Ils ont fait le championnat complet ?
Non, pas tous.
Non.
Mon fils l'a pas fait entièrement. Il a surtout fait le sidecar cette année. Hein, donc il a fini troisième. Malheureusement, sur des soucis d'embrayage. Donc lui, il était avec une Triumph, avec un moteur nourriche. Et donc ce qui était très très impressionnant à voir, parce qu'en plus il est devant toutes les BMW. C'est pas que j'ai quelque chose contre les BMW, mais ça faisait vachement plaisir de le voir devant.
Justement, il y a combien de catégories donc, dans le VMA? Il y a du sidecar, il y a l'endurance. Tiens, j'ai vu qu'en 2015 il y avait l'endurance.
Il y a donc trois catégories en ancienne, on va dire. Et puis la catégorie évolution, donc des petites cylindrées 400 jusque, donc des motos plus modernes.
C'est pas les postes classiques, c'est ça?
Non. Les postes classiques font partie du championnat purement ancienne. Donc là, dans ces catégories-là, il y a le vintage, donc tout ce qui est frein à tambour, qui est en plusieurs catégories au niveau des cylindrées, 350 et 650. Après, il y a du classique en 500 et en 750. Et après, il y a du post-classique, donc qui sont des motos un peu plus modernes, mais qui restent des motos anciennes. Pour pouvoir faire une catégorie, je veux dire, de manière caricaturale, plus avec des deux temps d'époque, mais des choses un peu plus performantes.
En gros, oui, vas-y, continue.
Après, donc, il y a la catégorie VMA Evolution, donc des machines plus modernes de 85 à 95, qui permettent aussi de faire rouler des deux temps bicylindres et puis des quatre temps quatre cylindres avec une limitation à 400 cm3. Après, il y a les endurances, donc pareil avec... des catégories plus modernes, donc en classique, ça c'est, on va retrouver des machines d'avant 83, et puis en open des machines plus modernes qui vont jusqu'en 91 là pour 2015. Ensuite il y a une nouvelle catégorie en 2015, un VMA Open Evolution avec un complément à la catégorie Evolution qui permet de monter en cylindrée, et puis ensuite les deux catégories sidecar, ancien et open.
Ça fait beaucoup de monde durant un week-end, ça, toutes ces catégories là sur le circuit.
Ça fait un
donc à chaque fois on se retrouve en gros on a regardé, c'est tous les 3 semaines à peu près les courses. Hein.
Ouais, c'est ça.
Donc on se retrouve, on se connaît à la force.
Des amitiés qui se créent et puis on est tous contents de se revoir. Et d'ailleurs ça fait drôle l'hiver maintenant. Ça fait un mois.
Ça fait une coupure.
Vous êtes triste. Vous avez
ça se voit.
L'hiver on fait la mécanique.
C'est vrai. Donc l'année prochaine vous avez envie de faire le championnat anglais.
Oui, c'est ça. Donc
c'est le
CRMC. Donc bon, l'Angleterre c'est un pays donc de mécaniciens puis surtout de coureurs. Hein.
Et d'anglaises
en plus, ce qui nous arrange bien vu qu'on roule en anglaise. Ouais. Et donc je veux dire le niveau est plus relevé, donc on a envie d'aller se mesurer donc aux Anglais.
Est-ce que l'île de Man fait partie du championnat?
Non, elle ne fait pas partie du championnat.
J'ai entendu dire que vous vouliez faire le TT.
Oui, ça c'est le fils là, qui voudrait donc s'engager en 750 et en sidecar là-bas. Donc on est en train de faire les démarches pour le faire. C'est pas très très facile.
C'est du circuit à gros cœur ça, hein?
Grosse mécanique. Ouais, parce que c'est 60 km, enfin c'est 3 fois le tour, donc 60, ça fait... 180 km, les trois quarts du temps, je veux dire même 95% du temps au taquet, quoi. Donc le moteur, il souffre.
Et il faut avoir une certaine expérience avant de pouvoir. Sinon, t'es pas admis, hein, je pense.
Ah oui, c'est ça. Il faut déjà avoir fait un certain nombre de courses sur route avec une licence, et donc pour pouvoir faire le Tourist Trophy, parce qu'il y a trop de personnes qui faisaient que le Tourist Trophy comme course. Et avec les accidents qu'il y a eu jusqu'à maintenant.
Alors, est-ce que les courses, genre en Belgique, Chimay, tout ça, Gédine,
Elles comptent justement parce que c'est des courses sur route, donc c'est des courses qui comptent pour pouvoir aller rouler au Tourist Trophy. C'est pour ça que beaucoup d'Anglais viennent faire ces courses donc, du championnat belge En Belgique.
D'accord. Donc une grosse année 2015 alors pour les amis de la moto.
Voilà, donc on va faire une réunion préparatoire pour voir, pour établir le calendrier.
Une grande réunion préparatoire.
Et comme pour le Zen, une recherche de sponsor. Voilà.
Daniel.
On a donné à le Zen, on n'a plus rien.
Les amis de la moto, c'est aussi une association. Alors on rappelle qu'il n'y a pas de souci, vous pouvez récupérer vos dons sur vos impôts.
On rappelle qu'on fait un motarton aujourd'hui. Les dons, donc, c'est sur le site. Piste, le Zen.
Lezen.free.fr. Donc là, moto avec la news, donc vous allez chercher.
Et on déconne pas, hein, parce que c'est pour la survie du complexe. Hein. Parce que si on n'a pas l'argent, Bruno,
on aura l'argent.
On aura l'argent, bon d'accord.
Vous mettez ce que vous voulez.
Sinon, jardin potager.
Voilà, bon, l'émission se termine. Merci Christophe, l'édito du MAG aujourd'hui.
Juste une petite info, je veux rappeler au Motoclub qu'il est temps de s'inscrire vos manifestations pour être présent sur le calendrier 2015. Donc vous avez les inscriptions en ligne sur le site K1C.
Très bien, merci Christophe. Dites au revoir.
Au revoir. Je donne rendez-vous début janvier. Ça sera une surprise.
Ah bah oui, c'est vrai, début janvier. Voilà. Forcément, on se retrouve. Et bonne fête à tous. Yanis, merci d'être venu.
Merci
Daniel. Alors là, super. LVF, super. Merci Bruno. On y pense pour le circuit. De toute façon, on va en discuter.
On compte sur vous.
Merci Patrick pour
surtout les adhésions. Un max d'adhésions.
Merci.
Mais Laurent, c'est super aussi, comme d'habitude. Et puis, on vous souhaite. On va pas. Vous, Christophe, on va pas te revoir. Bonne fête de fin d'année. Daniel aussi.
Bah oui.
Et puis, cher ami de la moto, également.
Merci.
Joyeux Noël à tous.
Au revoir.